Bienvenue à cet atelier DNSSEC. Donc aujourd'hui, nous avons uniquement l'audio sur Adobe. Toutes les diapositives sont disponibles sur le site de l'ICANN pour l'atelier DNSSEC. Il y a une adresse e-mail qui vous permet de répondre aux questions. Voilà ce qui va se passer pour aujourd'hui. Donc, bienvenue à cet atelier DNSSEC. Donc, vous avez ici le comité pour le programme d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons toutes les semaines pour planifier des ateliers DNSSEC. Nous essayons d'avoir un contenu pertinent et adéquat pour tous les participants du monde entier. Donc, merci aux participants au programme. Nous avons aujourd'hui un déjeuner qui sera sponsorisé par Affilias, Sira et SIDN. Jim, Christian, merci beaucoup. Mais il faut au moins avoir une réponse juste à l'interrogation pour pouvoir manger. Non, c'est une blague. Donc, l'interro, le test d'aujourd'hui, c'est de ne pas oublier les questions de la réunion et les réponses dans l'ordre. C'est ça le défi pour aujourd'hui. Donc, le déjeuner est sponsorisé. Vous avez votre billet sur la table. Donc, vous avez besoin de ce billet pour aller manger. Donc, le programme d'aujourd'hui a été organisé par ISOC et le SAC. Et tout ce que nous faisons lors de ces ateliers, en général, est intégré au programme Deploy 360 Internet Society. Donc, Dan York est chargé de ce projet et pour l'instant, il se débrouille très bien. Alors, pour ce qui est de l'ordre du jour d'aujourd'hui, la journée est bien remplie. Nous aurons un panel sur les activités DNSSEC. Donc, Comcast, Sira, Nick.pr, Nick.br, Fred, etc. Donc, une heure là-dessus. Ensuite, l'après-midi, il y aura plusieurs présentations. KSK, Sentinel, CZNIC avec les expériences de validation DNSSEC au CPE, Sira sur HSM et le roulement de clés. Et Joe, NTA, ainsi que quelques points de vue par rapport à ça. Et ensuite, l'interro, le test DNSSEC, le repas de midi, quelques présentations l'après-midi sur Dane. Ça, ce sera intéressant. Il y aura des ateliers pratiques. Donc, je pense que ce sera intéressant. Et ensuite, une discussion avec un panel sur le roulement de KSK. Alors, c'est la tradition, donc nous regardons ce qui se passe dans le monde entier en matière de déploiement de DNSSEC, donc les statistiques. Dan York fait le suivi de tout ce qui se passe en matière de DNSSEC. Il y a un rapport détaillé qui est disponible sur le site ISOC avec donc le déploiement jusqu'à 2016. Donc c'est le dernier rapport que nous avons là-dessus. Alors pour ce qui est des statistiques, la tendance est en augmentation, ou était en augmentation plutôt, jusqu'en juillet de cette année. Et après, il y a eu un petit problème. Je ne sais plus quel est le nom. BNSL. Donc BNSL s'est éteint. Donc la validation DNSSEC BNSL a été éteinte. On espère que ce sera rallumé, ce sera remis en route après le roulement. Mais voilà donc l'impact que peut avoir un FSI sur la totalité, parce qu'en fait, cela représente énormément d'utilisateurs. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. En ce qui concerne les statistiques par région, vous les voyez. Donc, en haut, 58% jusqu'à 2%. Donc, le DNSSEC n'est pas universellement répandu, hein. Donc, il y a certaines régions qui l'utilisent plus que d'autres. Donc, il y a encore du travail à faire pour que les FSI valident. De l'autre côté, du côté TLD, déploiement TLD, On est à 90% de TLD signés dans la racine et je crois que ce chiffre va rester à ce niveau-là pendant longtemps. Les 10% qui restent vont prendre un certain temps, donc il nous reste encore du travail. Donc nous avons 1544 TLD signés, donc c'est bien, on progresse. Donc ces statistiques, ce sont les statistiques des domaines signés, donc c'est un pourcentage de domaines signés par TLD. C'est difficile à lire en fait. Vous voyez la diapositive. Donc davantage de statistiques. Vous avez le lien en dessous si vous voulez avoir les statistiques d'NSXstat. Vous pouvez aller voir, ça peut être intéressant. Simplement parce que voilà, c'est intéressant. Donc, ce que nous avons, c'est des cartes, en fait, du monde avec des couleurs qui vous donnent le statut des différentes régions avec les couleurs. Donc, vous voyez ici la carte des NSX du monde. Il y a 7 ans, je me souviens que ces cartes étaient relativement vides. Il n'y avait pas beaucoup de verre, beaucoup de mise en place partielle ou expérimentale. Alors, il y a encore quelques régions qui ont besoin de travailler, mais c'est quand même relativement positif, même s'il reste du travail. Alors voilà, justement, en Afrique, il y a beaucoup de CC qui n'ont pas annoncé, qui n'en sont même pas à la, au statut expérimental pour les CCTLD. Alors, il peut y avoir 2 raisons à ça. Si vous souhaitez mettre en place le DNSSEC, il faut informer Danyorg, quelqu'un dans la communauté, et à ce moment-là, vous êtes sur la carte. Donc, c'est un problème aussi d'information. Là, ça progresse. L'Asie-Pacifique, donc c'est beaucoup mieux. Il reste encore quelques pays, régions qui manquent, mais ça commence à démarrer relativement bien. Vous voyez des informations dans ce petit encadré. L'Italie, enfin. Par rapport à la question qui a été posée, c'est toujours coloré en vert, donc DS dans la racine. Donc, pas d'acceptation des bureaux d'enregistrement. Je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle, non? Alors, je ne sais pas. Donc, DS dans la racine, c'est l'hypothèse, enfin, c'est ce que nous avons imaginé. Mais si le DS est accepté par le bureau d'enregistrement, il faut qu'on passe à la une autre couleur, donc il faut qu'on soit informé de ça. Ensuite, la région lac, il en manque quelques-uns. Donc là aussi, il faut sensibiliser. Donc je crois que lac TLD est en train de travailler là-dessus. Amérique du Nord et le Groenland. On en est presque au vert partout, donc ça avance. Donc ça, ça permet de bien faire augmenter le pourcentage, hein, ces couleurs. Nouvel intervenant, est-ce que vous pouvez revenir en arrière, en Amérique centrale? Moi, je voulais simplement mentionner le Panama, parce que c'est là qu'on va, n'est-ce pas, la prochaine fois? Jacques au micro, oui, tout à fait. Effectivement, peut-être qu'on devrait organiser quelque chose sur le DNSSEC là-bas. D'accord. Voilà l'Amérique du Nord. Donc les cartes sont disponibles en ligne sur Deploy 360. Vous pouvez vous inscrire. Je crois que vous recevez des informations tous les mois ou 2 fois par mois avec toutes les informations, les fichiers JPEG, toutes les données. Vous pouvez vous inscrire, tout est en ligne. Ensuite, l'ISOC est en train de travailler à un projet sur l'historique du DNSSEC. Donc, si vous avez des informations qui ne sont pas sur ce site, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra mettre à jour les informations sur tout l'historique du DNSSEC. Donc. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Y a-t-il des questions? Nouvel intervenant, Abdoumalam. Je suis coach ICANN pour l'Égypte. Ma question est relative à la différence entre le DS dans la racine et le statut opérationnel. Donc DS dans la racine, ça veut dire qu'un bureau d'enregistrement peut ajouter au niveau du registre, ou est-ce que le bureau d'enregistrement peut proposer des sites DNSSEC pour le bureau d'enregistrement? Alors, en vert clair, il y a chaîne de confiance. Alors, en plus foncé, c'est difficile, mais c'est lorsqu'il y a acceptation du titulaire de nom de domaine, du DS, du titulaire de nom de domaine. Donc, on peut signer la zone. Le bureau d'enregistrement. Donc, ils ont EPP et ils acceptent l'enregistrement dans le web. Alors, l'Égypte doit changer de couleur? Donc, DS dans la racine, vous. Alors, j'avais parlé lors de réunions précédentes de l'ajout. Donc, de prendre en compte les CCTLD IDN pour l'Égypte. Mais peut-être qu'il faudrait identifier les IDN et ASCII. Ça, c'est pour le point EG, pas pour l'IDN. Mais ça, c'est pour l'IDN, c'est pas pour le EG, le point EG. Effectivement, vous avez raison. D'accord, Jonathan. Nouvel intervenant. C'est plus facile, si possible, surtout dans ce type de situation, d'envoyer des emails directement à Danyorg ou au programme, au comité qui s'occupe du programme DNSSEC, parce que ça nous intéresse, ce type d'information. Nouvel intervenant. Petit commentaire. Je n'ai pas trouvé de nom signé, de domaine signé, pardon, en Italie. Donc, s'il le délègue, eh bien, il le cache bien. Mon serveur n'a pas trouvé un seul domaine signé en Italie. Donc, je pense qu'il ne délègue pas, ou alors il cache vraiment les premiers cas. Jacques au micro. C'est donc un secret. Très bien. Merci. D'autres questions? Je me demande pourquoi le certificat de déploiement du .org, DNSSEC, donc, a expiré en août 2017. Danyorg, est-ce que vous nous écoutez? Alors, n'oubliez pas de donner votre nom avant de prendre la parole. Et j'aurais dû d'ailleurs mentionner sur quelle diapositive je suis, parce qu'en fait, il y a des gens qui nous écoutent, qui écoutent uniquement l'audio. Nouvel intervenant. Il y a un lien au déploiement du DNSSEC et à l'historique. J'essayais d'y accéder et le certificat a expiré. Jacques au micro. Merci. On va voir ce qu'on peut faire. Très bien. Des questions? Alors, il nous reste encore une minute et je ne sais pas s'il y a des personnes de la région africaine qui peut-être prévoient de mettre en place le DNSSEC dans la salle et qui pourraient nous mettre à jour. Il n'y a rien qui se passe là-bas? Très bien, merci. Donc la session suivante, c'est la discussion du panel sur les activités DNSSEC. Et notre premier intervenant, c'est Joe. Donc Joe Crow de Comcast. Bonjour à tous, je m'appelle Joe Crow. Comme Jacques l'a dit, je suis de Comcast. Je travaille à Comcast depuis 4 ans en tant qu'ingénieur, responsable ingénieur. Comcast a mis en place le DNSSEC depuis 2012. Nous avons non seulement fait la validation de toute notre empreinte, nous avons également effectué les signatures de DNSSEC sur plus de 5 000 zones. Nous validons pour plus de 20 millions de clients. Donc le DNSSEC est extensible. Il y a des problèmes opérationnels en cas d'échec de la validation DNSSEC. On a des appels et donc effectivement il y a un coût associé à ça. Et ça, c'est un des gros problèmes que nous avons, même si ce n'est pas nous en fait qui sommes responsables de l'interruption. Excusez-moi, c'est la première fois que j'interviens et en plus c'est vraiment très tôt. Donc vous m'excuserez. Alors, du point de vue des problèmes opérationnels. Alors, premièrement, la mise en place des DNSSEC sur toute notre empreinte, c'est-à-dire s'assurer que tous nos résolveurs sont à jour, s'assurer que les numéros de version de nos résolveurs, les logiciels de nos distributeurs sont conformes avec tout ce que nous devons faire en matière d'automatisation. L'automatisation, c'est vraiment la plus grande initiative au cours des 4 dernières années que nous avons mis en place. Il y a différents outils d'automatisation que nous avons mis en place. Nous avons utilisé SaltStack récemment, qui nous permet d'automatiser un endroit et plusieurs distributeurs, jusqu'à plusieurs distributeurs. Du côté des résolveurs, DHCP. Donc, lorsque vous avez des centaines et des centaines de serveurs sur votre empreinte, il faut absolument utiliser cette méthode parce que vous n'allez pas manuellement changer tout ceci. Hein. Le changement manuel, c'est forcé qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir un problème. Donc, nous avons récemment essayé de voir comment faire le DNS 0. Et nous avons essayé de le mettre en place avec un... En fait, il y a un coût parce qu'il faut un CPU, une unité de traitement. Donc, étant donné le nombre de requêtes que nous avons par jour et même par seconde, il faut absolument s'assurer de faire les choses correctement pour les gens du CDN, pour qu'ils aient la bonne réponse par rapport à la géolocalisation, d'avoir la bonne réponse... Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de performance pour nous et pour nos clients. Vous savez, ces petites millisecondes s'ajoutent et deviennent quelque chose d'énorme. Alors, depuis 2015, nous avons commencé à utiliser Dane pour les mails. Au début, c'était un problème du point de vue opérationnel parce que nos serveurs faisant autorité à l'époque n'avaient pas d'enregistrement TLSA à utiliser. J'ai dû donc essayer de voir comment utiliser le R7 type 52 et donc j'ai dû utiliser nos résolveurs pour nous assurer qu'ils faisaient autorité et que le reste du monde pouvait utiliser ces enregistrements. Ensuite, le lancement n'a pas été problématique. L'équipe avec laquelle je travaille s'en occupe depuis 2015 et nous avons donc lancé le programme. Le test a eu lieu en 2014. Alors, à l'avenir, dans notre infrastructure, nous allons utiliser de plus en plus Dane pour tous les... enregistrements TLS. C'est en fait un CE interne. Nous l'utilisons comme ceci. Il y a beaucoup de choses que nous auto-signons à l'interne sans utiliser de CE externe, surtout étant donné les coûts qui sont associés. Vous savez peut-être, pour certains d'entre vous, que si vous utilisez plus de 5000 zones à l'interne, et si vous ajoutez à ça le nombre d'équipes qui sont dans la zone racine et si vous souhaitez avoir votre propre TLS, votre propre certificat, toutes ces équipes, donc c'est un coût énorme parce que si les gens disent « Oh, on va passer à Commode » et s'ils dépensent quelques centaines de dollars par an, c'est certes quelque chose qui n'est pas très adéquat. Donc voilà, il vaut mieux faire comme ça à l'interne. Alors du point de vue opérationnel, on essaie de voir comment faire notre roulement de clés DS. Comme je l'avais dit, c'est 5000 zones, donc c'est énorme comme travail à effectuer. Donc lorsqu'on resigne, il faut mettre à jour les enregistrements DS. Il n'y a pas de processus automatique pour le faire. Tout est manuel. Il y a beaucoup de choses que l'on fait avec nos bureaux d'enregistrement là-dessus. Et donc, il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui ont vraiment essayé de voir comment on peut automatiser le processus de manière à faire un roulement sécurisé, mettre à jour notre DS, resigner quand c'est nécessaire. Il y a eu des problèmes, il a fallu faire passer des zones d'un serveur faisant autorité à un autre et il a fallu donc resigner. Donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer que tout ce qui est opérationnel nous est bénéfique. Nous sommes une grande société. Je sais que tout le monde a ce type de problème, mais pour nous, ceci est d'autant plus important parce que nous sommes une grande société. Et donc, il faut absolument s'assurer que ça fonctionne correctement, sans problème. Parce que ça coûte cher. Même un tout petit problème peut nous coûter des dizaines de milliers de dollars. Je parle là d'une période de 5 à 10 minutes. Et en plus, tous les clients appellent. Hier, il y a eu un problème où state.gov avait un problème de DNSSEC. Donc, on a reçu un email. En fait, c'était un tweet de quelqu'un qui nous a dit « Eh, dites donc, le state.gov, donc le département des États-Unis, le département d'État, a un problème de DNSSEC. » En fait, il y avait un problème de cache parce qu'ils avaient mis à jour des informations de leur côté. Mais bon, ce sont de petites choses. Et donc, lorsqu'il y a des problèmes de DNSSEC, les gens s'adressent à notre équipe DNSSEC. Et en fait, le meilleur moyen de nous contacter, c'est Twitter, Twitter Comcast. Parce que vous arrivez directement sur un ingénieur de notre équipe. Et donc, en fait, on surveille notre Twitter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, c'est tout ce que j'avais là-dessus par rapport à notre travail à Comcast et au DNSSEC. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Ross.
Ross Mundy au micro. Merci, merci beaucoup de nous avoir rejoints à cet atelier. C'est très positif. Nous avons très bien travaillé avec Comcast par le passé et nous le ferons toujours dans l'avenir. Dans votre présentation, vous avez parlé de l'impact des IDN de l'EDNS. Et je suis sûre que vous faites des tests en interne et que vous avez publié des informations sur DNSSEC, l'impact du DNSSEC sur les serveurs faisant autorité. Mais je ne suis pas sûre si vous avez des informations disponibles par rapport à au résolveur validant et à la question de savoir si le DNS est utilisé ou pas. J'aimerais donc que vous demandiez dans votre société si des informations en ce sens pourraient nous être fournies. Cela pourrait aider les autres et nous donnerait un point de référence que d'autres opérateurs pourraient regarder pour mettre en œuvre leurs tests. Je suis d'accord avec vous, dit John. Je pense que ce type de données serait très utile pour la communauté DNSSEC dans son ensemble. Je vais bien sûr remonter ces informations à notre intervenant et ce serait très bien pour la publicité de Comcast. Russ, à notre intervenant, une question de clarification. Quand vous avez parlé de EDNS, parliez-vous d'une extension spécifique de EDNS 0? Quand j'ai parlé de EDNS 0, je parlais notamment des résolveurs. Oui, c'est exactement ce que je faisais. C'est ce que je disais, ouais. Pour ce qui est des défaillances dans ce sens, il y a eu en 2016, en 2017. Récemment, on n'en a pas eu ce type de défaillance, mais si on pense à 2016, il y en a eu 6 qui étaient chiffrées. Il y avait eu des données brutes qu'on avait reçues. Et c'est pour ça que on avait publié dans la zone. Je ne sais pas comment on avait fait, mais ce serait intéressant d'avoir des informations là-dessus. Jeff et puis Warren. Jim au micro. En général, quand on parle de DNSSEC, on parle des résolveurs. Et on sait qu'il faut du temps et beaucoup d'attention parce que on peut mettre en place des angles de confiance négatifs. Alors, que dites-vous aux autres fournisseurs de services Internet qui se penchent sur cette question des angles de confiance négatifs, à notre intervenant? Il faut valider DNSSEC, c'est ça la réponse. C'est très facile de allumer, si vous voulez, ce type de solution. C'est une solution qui est un peu obscure, mais quand il y a une validation qui est mise en place, nous ne pensons plus à qu'est-ce qui va se passer. Je vais parler plus tard sur cette question en particulier, donc je vais rentrer dans le détail après. Warren Quarry. Je me sens pas très bien parce que NASA.gov a eu un petit problème à un moment donné et state.gov également a trouvé des difficultés en signant DNSSEC. Alors, ce serait important que les gens arrêtent de casser DNSSEC. Ce serait génial. Oui, nous recevons les appels, bien sûr. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Notamment quand il y a des pannes qui se produisent. HBO, par exemple, quand le DNS est en panne, c'est nous qui sommes les coupables, finalement, aux yeux des gens. Vous avez dit que vous avez plus de 5000 zones que vous gérez. Est-ce que vous êtes penché sur l'automatisation CDNS des clés? Nous ne sommes pas allés aussi loin parce que nous avons d'autres projets sur lesquels nous nous penchons. Mais à chaque fois qu'on essaye d'examiner cela, il y a quelque chose d'autre qui se présente. Et la dernière remarque que j'ai est la suivante. Alors, l'utilisation de Dane, est-ce que vous avez trouvé que cela conduit à des bénéfices? Si vous faites cela, vous pouvez avoir donc des effets positifs? Oui, je suis d'accord avec vous. Nous testons cela et nous voyons que cela peut nous faire progresser parce qu'il y a un retour sur investissement qui est intéressant lorsqu'on parle de ce type de projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jacques au micro? Très bien. Prochaine présentation, c'est Jacques Latour de CIRAS, c'est-à-dire moi-même, activité DNSSEC au Canada et à point et au point CA. Alors, nous avons pu faire un suivi de l'application de DNSSEC au Canada pour identifier les tendances générales pour la validation de .ca au Canada. Il y a certains FSI qui ont décidé de ne pas mettre en place DNSSEC. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains. Et donc la tendance change. Heureusement, éventuellement, il y aura d'autres fournisseurs qui vont réactiver des NSSEC. Et si vous avez des informations qui pourraient encourager donc ce type de fournisseurs pour qu'ils comprennent la valeur ajoutée que représentent des NSSEC, ce serait intéressant de les recevoir. Entre-temps, nous essayons de faire des présentations auprès des FSI pour voir quels sont les bénéfices des NSSEC. Nous avons mené des actions de sensibilisation, mais ça reste quand même assez difficile. Ici, vous voyez Telco au Canada. Vous voyez qu'il y a Texas Ivy qui fait, c'est le seul qui fait validation des NSSEC. Il y a un autre FSI qui s'occupe des échanges Internet de Canada et c'est l'un des plus modernes FSI. Pour le reste, ils ne sont pas intéressés à mettre en place des NSSEC. Nous avons beaucoup de travail à faire avec ces gens pour qu'ils adoptent des NSSEC. Activité dans .ca. Nous avons suffisamment de noms signés pour générer un schéma ou un graphique. C'est bon signe déjà. Nous avons généré donc ce schéma ce mois-ci. Nous avons 1256 domaines signés. En juillet 2017, on a fait l'intégration d'NSSEC avec Sira. Et avant cela, nous n'avions pas GoDaddy avec nous. C'était dommage, mais maintenant ils sont là. Mais l'impact de cela n'a pas non plus créé beaucoup de demandes au niveau du trafic. Sira travaille à l'automatisation de CDS. À travers le fichier de zone pour essayer d'automatiser les opérations qui ont lieu à ce niveau-là. On essaie d'avoir CDS disponible dans le fichier de zone pour que tout cela fonctionne. Alors, l'adoption d'NSSEC est plutôt lente. Nous avons très peu de bureaux d'enregistrement qui ont adopté d'NSSEC. GoDaddy l'a adopté, mais les bureaux d'enregistrement ne sont pas intéressés à adopter d'NSSEC avec les titulaires. Ils ne sont pas intéressés à ces clés. Et cela prouve qu'il y a un besoin d'automatisation, automatisation de CDS et des clés CDNS. Nous commençons à voir cette question de l'automatisation. Le problème, c'est que nous ne sommes pas au stade de production encore. Et même en interne, nous avons des difficultés pour que l'on attribue une priorité à ce dossier. Il y a des nouvelles plateformes qui sont en préparation, mais d'ici 6 mois, nous pourrions donc faire des progrès là-dessus. En interne, comme je vous ai dit, cela traîne un peu. C'est triste, mais c'est la réalité. Nous avons donc le DPA qui peut accepter la demande des opérateurs pour accepter ou éliminer les enregistrements DS. Nous devons travailler sur le protocole pour que ce soit plus automatisé. Si nous voulons que les opérateurs fassent quelque chose par rapport au DPA, ça doit être dans leur zone sans aucune mise à jour. Alors, je pense que le fait de scanner une zone assez large, c'est la meilleure façon de faire. Mais il faut que certains opérateurs puissent travailler un peu plus sur la base de la réalité. voilà tout ce que j'ai. Il ne se passe pas grand-chose au Canada au niveau du point CA. Y a-t-il des questions? Jacques? Oui. En tant que l'un de vos bureaux d'enregistrement et l'un des rares qui le font, j'ai des domaines signés et je rencontre le problème habituel. Je suis un gestionnaire DNS, mais je n'utilise pas DS encore. Donc, quand est-ce que je vais pouvoir utiliser CDS. J'ai un commentaire. Pouvez-vous dire votre nom, s'il vous plaît? Je l'ai fait, excusez-moi. Victor Duchovny. J'ai trouvé 24 domaines en .ca qui ont CDS. Et Serial Labs est l'un d'entre eux. Il paraît que vous êtes en train de tester cela. C'est très bien. Et c'est voilà mon commentaire. Merci beaucoup. Russ Mundy, avez-vous des plans pour essayer de faire en sorte que les bureaux d'enregistrement soient plus nombreux à adopter DNSSEC, qui changent leur mentalité de penser qu'il n'y a pas de retour sur investissement à l'adoption de DNSSEC? Jacques, l'idée, c'est un petit peu de travailler avec eux pour essayer qu'ils arrêtent d'utiliser ParolDNS et essayer d'échanger des informations. Je ne sais pas si ce sera des résultats, mais on essaye de faire en sorte qu'ils puissent utiliser Dane pour la messagerie et, en gros, essayer de travailler avec eux. Mais le transfert des enregistrements DS, cela n'est pas possible. Donc, la coopération, dit Russ Mundy, en tant que de soutien au DNSSEC, puisqu'il n'y a pas d'impact financier, ils mettent les registres, mais ils ne veulent pas investir de l'argent pour incorporer toutes les fonctionnalités du système, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, nous avons organisé un atelier sur DNSSEC. Et le transfert des informations de DNSSEC ne fait pas partie de l'enregistrement d'un nom de domaine. Ça ne fait donc pas partie des informations d'enregistrement. Et il y a d'autres informations qui sont mises à jour automatiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christian Asmond? Est-ce que vous parlez avec le FSI qu'on a vu sur la liste? Oui, dit Jacques Latour. Je rencontre les différents FSI du Canada, je leur présente le DNSSEC, les DNSSEC, mais ils s'en fichent. Par contre, les statistiques par rapport à l'IPv6 sont beaucoup plus encourageantes, mais les DNSSEC, on a encore du travail là-dessus. Y a-t-il d'autres questions? Alors, prochaine présentation, c'est Carlos Acosta de NIC.PR. Et Nick? Bonjour, je m'appelle Carlos. Une brève histoire de .PR. Tout d'abord, on était un laboratoire de recherche. Nous travaillons sur plusieurs dossiers, comme par exemple la toile numérique ou la clé cryptographique publique et d'autres projets. Ensuite, c'était un centre de sciences informatiques et nous penchions sur beaucoup de questions concernant le chiffrement. Et c'est pour ça que nous nous sommes intéressés à la question de la sécurité du DNS. En 2000, un site du gouvernement a été redirigé vers un site malveillant au niveau du FSI. Et cela aurait pu être évité si on avait eu DNSSEC. Ensuite, la Suède a été le premier CCTLD qui a proposé des NSA, qui on a compris que c'était le chemin à suivre. En 2006, en juillet, nous allons commencer à signer les zones, mais ce n'a été jusqu'au mois d'août de la même année que nous avons pu enregistrer ces enregistrements dans les serveurs publics. Voilà les zones que nous avons déployées au niveau du DNSSEC. C'est une liste assez considérable. Et ensuite, nous avons créé une page web pour informer le public ou les parties intéressées où on en était par rapport à la mise en œuvre des DNSSEC. Et à ce moment-là, nous avons encouragé le gouvernement à signer le nom de domaine du gouvernement pour éviter les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer auparavant. Il y a quelques années, nous avons signé un programme d'encouragement pour commencer à signer d'autres clients. Vous voyez ici un schéma qui correspond à décembre de l'année dernière pour voir combien de zones signées nous avions et combien de zones non signées. Nous avons un peu plus de 1% à décembre de l'année dernière. Ici, vous voyez ce que représente ce 1%. 9% ont été signés par les bureaux d'enregistrement et le reste par nous. Vous voyez ici un aperçu des détails par rapport à la façon dont nous gérons la signature des NSSEC. Nous avons des machines avec des serveurs Windows 2003. Nous utilisons VBS Script pour signer des NSSEC et nous vérifions que tout fonctionne correctement avec des résolveurs ouverts des NSSEC et en utilisant DNS Viz. Et c'est à peu près tout. Voilà un bref aperçu. Avez-vous des questions? Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vais donner la parole à Jim.
Merci beaucoup, Carlos. Je suis Jean Galvin d'Afilias et je vais aller directement à cette diapositive. Donc, Afilias vient de faire la transition du point PR. Nous sommes donc passés à nos services en janvier et donc c'était justement le moment de parler des processus de transition des TLD. Je sais que nous avons beaucoup parlé de roulement de clés, mais vous savez, l'expérience a été bonne pour nous. Nous avons pu travailler avec le point PR là-dessus. C'était un plaisir, puisqu'ils ont adopté assez tôt les DNSSEC. Et donc, on a pu un petit peu parler de tout ce processus. Alors, je passe à la diapositive 7. Donc, Afilias, comme le point PR, est impliqué dans le DNSSEC depuis très longtemps. Nous n'avons pas été premiers, mais nous avons commencé les DNSSEC en 2008. Nous avons commencé à signer des TLD en 2009. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'on travaille là-dessus et au fil du temps, nous avons fait la transition pour un certain nombre de TLD. Certains, d'ailleurs, nous ont quittés, malheureusement, mais nous avons fait la transition quand même d'un certain nombre de TLD. Ensuite, diapositive 9. Ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il y a beaucoup d'attention qui est prêtée au roulement de KSK de la racine et de toute évidence, c'est important parce qu'il y a un certain risque. Il y a beaucoup de technologies qui s'occupent de ce roulement, mais ce qui est intéressant au niveau des TLD, c'est que comme pour la racine, la proposition est en fait à risque et les conséquences, les effets, s'il y a quelque chose qui se passe mal, sont très importants. Donc au niveau du TLD, vous pouvez perdre tout un TLD. Il peut devenir non valide. Et donc, je crois que nous le comprenons tous, nous tous qui travaillons dans la technologie. Et donc, il faut vraiment réfléchir à tout ce processus et voir où sont les points difficiles. Alors ensuite, diapositive 9. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'il y a des étapes administratives qui ne sont pas sous notre contrôle. En tant que fournisseur de services, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, il y a deux choses, deux parties. Il est facile de dire, oui, il faut que j'aille parler à l'autre fournisseur de services, là où se trouve le DNS, mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avec l'IANA aussi, parce qu'il faut avoir les nouveaux enregistrements DA, ça met dans la racine. Et donc, c'est ce processus supplémentaire, ce processus que vous ne maîtrisez pas. Et donc, il y a des étapes de validation. Il y en a aussi qui sont effectuées pour s'assurer que cette interaction se passe. Tout ceci doit être documenté. Ensuite, l'étape suivante, c'est lorsque vous êtes prêt à lancer tout ceci, il y a encore un lien à avoir avec l'IANA, avec la transition. Et donc, lorsque vous roulez votre propre clé, votre propre zone, lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement de clé, lorsque vous déplacez votre serveur de nom, vous déplacez un serveur de nom, mais il faut coordonner ceci avec la partie tierce. Et donc, le problème, c'est le calendrier. Le processus est assez clair, facile, si vous vous occupez de votre propre zone, dans votre propre environnement, parce que le délai, en général, est déterminé par plusieurs TTL et votre gestion de ces TTL. Mais dans ce cas, lorsqu'on a ce roulement avec les TLD, le processus prend un certain nombre de semaines pour qu'il soit bien fait, pour s'assurer que toutes les étapes d'administration sont effectuées. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons une double vérification. À chaque fois que nous faisons quelque chose, on vérifie avant de passer à l'étape suivante que toutes les clés sont là. Donc, c'est un processus assez lourd du point de vue administratif pour s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, diapositive 14, je vais en parler un petit peu. Je vais parler justement des problèmes que nous avons rencontrés. Le point PR a parlé des machines Windows qu'ils utilisaient pour tout ceci, même aujourd'hui. Et donc, nous avons eu ce type de problème avec des technologies très anciennes et des processus anciens, surtout pour les petits TLD. Un des avantages que nous avons, étant donné que nous sommes un FSI important, beaucoup de nos processus sont automatisés, comme la plupart des personnes qui sont présentes dans la salle. Mais le problème, en fait, c'est l'installation. Il nous faut absolument bien voir ce que font les fournisseurs actuels. Il faut trouver un moyen d'intégrer notre travail avec le leur, d'avoir les données de zone qui nous sont envoyées. Et également, la question, c'est de gérer ces étapes de changement des clés. Alors, autre chose auquel nous sommes confrontés, c'est les différentes politiques. Alors, je sais qu'on se concentre énormément sur le côté technique, mais en termes de meilleures pratiques, on avait deux serveurs de nom, en fait. Mais c'est assez surprenant lorsqu'on a des CCTLD. On avait un seul serveur de nom objet dans les systèmes. Et donc ça, c'est un problème. Donc, il faut à un moment s'occuper de ce problème. Et s'occuper des enregistrements dans le système. Ce n'est pas uniquement les TLD, c'est aussi les données que l'on a. Les domaines de deuxième niveau pour s'assurer que toutes les politiques sont à jour. Et donc, ce type de choses, en fait, ralentit le processus de transition, le transfert, parce que vous avez l'impact des données d'enregistrement. Autre problème que nous avons eu, c'est les problèmes d'incohérence des données. Et pour nous, lorsqu'on a des problèmes de ce type, parfois, par exemple, Nous avons eu des problèmes de présence dans la zone. Ça faisait partie d'une transition. On n'avait même pas fait attention à ça. Donc, il a fallu mettre à jour les processus pour ne pas avoir de problème à l'avenir. Et donc, le message que nous avons à vous transmettre, c'est que cela demande énormément de personnel, ce roulement de TLD. Donc, un coût assez important, ce roulement de KSK. Ce n'est pas uniquement la partie technique, de toute évidence, on en a déjà parlé, mais c'est toutes les activités supplémentaires qui s'y ajoutent. Nous avons une liste de contrôle que nous suivons de manière très prudente. Il y a toujours des choses qui se produisent et il faut s'occuper de tous ces incidents. Et donc, nous avançons, nous commençons à mieux comprendre les DNSSEC. Nous faisons vraiment le suivi de tout ce qui se passe en matière de pénétration des DNSSEC dans la communauté dans son ensemble. Et je crois que ce type de question est important. Ce n'est pas aussi facile, en fait, qu'on pourrait le penser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Merci, Jim. Des questions ? Iramir au micro. Je vois que vous utilisez le 5 pour le DNSSEC. Est-ce que vous allez passer à autre chose pour le DNSSEC ? Ah, l'algorithme 5. Jim au micro. Nous ne prévoyons pas immédiatement de modifier ça, mais effectivement, c'est quelque chose que nous surveillons de près. Nous n'avons pas encore décidé ce que nous allons faire et quel algorithme utiliser pour l'instant. Nouvel intervenant. C'est quoi cet algorithme 5, d'ailleurs? Des questions? Non? Ça va? Très bien. Carlos, alors. Carlos et Jim, merci. Alors, ensuite, nous avons Federico Nevis. Avec le roulement d'algorithmes DNSSEC pour le point BR. Federico Nevis au micro. Alors bonjour, je m'appelle Federico, je travaille pour le point BR, opérateur de registre point BR. Alors, deuxième diapositive. Donc, un petit historique de l'opérateur de registre DNSSEC. Nous avons commencé en 2007 en utilisant le RSA SHA 1. Et en 2009, avec l'arrivée de l'adoption NSEC 3 et du refus NSEC 3, nous avons pu signer des zones plus larges. Donc, nous avons signé toutes les zones .br. À ce moment-là, nous avons environ 75 zones. Nous avions 75 zones et nous avons maintenant 90, avec beaucoup d'ajouts d'extensions géographiques, de domaines de deuxième niveau, les CT du Brésil, donc. En 2010, un peu avant la signature de la zone, nous avons fait notre premier roulement de KSK et nous avons mis à jour le DPS avec taille de la clé de 1280 bits. Et nous avons également utilisé un nouveau plan pour la cérémonie avec des HSM. Et donc, voilà ce que nous utilisons depuis. Nous avons réussi à arriver dans la racine avec le DS. En fait, à mettre le DS dans la racine en juin. Et en 2015, suite à notre DPS, nous avons à nouveau roulé notre KSK. Et à l'époque, nous avons utilisé la même taille de clé. Donc, 1536 bits. Actuellement, nous avons environ 3,9 millions de délégations qui, pour la majorité, sont au deuxième niveau, .com, .pr, et environ 1 million de délégations signées. Alors, justement, pour le sujet d'aujourd'hui, par rapport aux motivations, donc le roulement d'algorithmes, la plus grosse motivation, en fait, c'est d'être prêt en cas de roulement d'algorithme en urgence. Donc, de préparer le logiciel à ce type de situation. Nous avons notre propre signataire. Donc, le logiciel actuel n'a pas la possibilité, n'a pas des capacités d'agilité d'algorithme. Donc, en temps de paix, l'idée, c'est d'être vraiment prêt. Nous sommes passés à l'ECDSAP 226, SHA 256. C'est grâce à mes collègues qui sont à ma gauche, parce qu'eux, ils ont déjà été confrontés à un enjeu avec le ping d'IANA. Donc, l'IANA est maintenant prêt. Et nous ne devrions pas avoir de problème pour rouler l'algorithme à l'avenir. Donc, il y a un bénéfice pour nous, un avantage supplémentaire, parce que certaines de nos zones plus grandes utilisent le NSEC 3 avec la preuve de non-existence dans certains enregistrements, dans certains types. Et donc, nous n'avons plus besoin d'avoir une clé séparée. Étant donné l'historique du protocole, le roulement d'algorithmes que nous avons utilisé pour introduire le NSEC 3. Notre système d'avitaillement actuel commence à vieillir un peu. Il a été écrit en 2004 et à l'époque, nous n'avions pas toute la bibliothèque DNS. Donc, on a dû écrire notre propre système pour entretenir les choses. Donc, on aimerait s'en débarrasser. Donc, c'est un autre avantage du changement de ce logiciel. Donc, diapositive 4. Donc, la méthode pour le roulement d'algorithmes. Comme je l'avais dit, nous avons notre propre signataire. Nous avons dû décider de la manière de reconstituer l'algorithme. Donc, nous avons commencé à faire des recherches. Quelles sont les recommandations que nous avons? Et donc, 6781 recommandent que le roulement soit fait de manière conservatrice. Mais tous les signataires open source, source ouverte, que nous avons pu obtenir, en fait, font le bind avec des clés gérées et avec OpenDNSSEC. Donc, il y a une autre approche qui est l'approche libérale, et c'est ce qui est utilisé par ces signataires open source. Mais nous, nous souhaitions avoir une approche plus conservatrice. Au cours de la semaine passée, lors de la réunion OARC, nous avons obtenu davantage d'informations là-dessus. Et donc, nous savons maintenant que le logiciel qui utilise cette démarche conservatrice a déjà 7 ans. Donc, ça commence à vieillir. Et il y a 5 ans, nous avons eu une clarification sur le 6740. Par rapport à ce langage 4035, qui n'est pas très clair. Donc, il y a une certaine controverse qui existe. Et donc, le roulement d'algorithmes du point SC a très bien marché. Ils ont utilisé le OpenDNSSEC. Tout a très bien fonctionné.
Anyway, we will test both.
Donc, en fait, nous allons tester les deux approches, les deux démarches. Et nous verrons par la suite comment ça se passe. Alors, au cours des mois à venir, nous allons rouler. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de procédures, c'est compliqué, il y a différentes étapes pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors, voilà ce que nous allons faire. Mi-mai, nous allons mettre à jour nos HSM et nous allons avoir un troisième site qui sera mis en place dans un autre lieu par rapport aux autres sites qui sont à Sao Paulo. Nos HSM ont été mis en place en 2010. Ils fonctionnent toujours bien, mais nous allons en fait en éliminer deux et en les changer donc pour que l'on puisse être compatible avec le nouvel algorithme. Et ensuite, il y aura la cérémonie de roulement. C'est une cérémonie qui ira de août 2018 à janvier 2019. En ce qui concerne le roulement test, la cérémonie de roulement test, il y en aura une pour commencer qui utilisera les deux méthodes. Alors, nous passons à la diapositive suivante. Nous sommes à la diapositive 6 pour ceux qui nous écoutent à distance. Donc, nous aurons 6 zones. Sur 3 de ces zones, on va utiliser la méthode conservatrice et avec les 3 autres zones, on utilisera la méthode libérale. La raison pour laquelle nous avons ces 3 zones, c'est que dans la zone BR, nous avons des clés partagées. Et dans d'autres, nous avons une seule clé, une clé combinée. Donc voilà. Et pour la majorité, nous utilisons le NSEC. Donc, nous essayons de couvrir toutes les situations. Nous devrions avoir le début. Donc le début de ce roulement sera en juin 19. Pour ce qui est de la surveillance, nous allons suivre le SEDN Labs a publié un rapport détaillé sur la surveillance du roulement. Et donc, nous allons utiliser leur méthode pour surveiller les tests ainsi que le roulement. Donc, je vous recommande de lire ce rapport. La cérémonie de roulement aura lieu le 23-24 juillet sur nos sites et nous allons mettre à jour tous les logiciels signés ainsi que le matériel. Nous allons nous préparer à l'exportation des clés parce que lorsque nous avons de nouvelles clés pour les cérémonies, il y a beaucoup d'étapes pour l'exportation de ces clés et pour l'importation des HSM. Donc, nous allons en fait modifier notre approche. Nous avons un nouveau format qui nous permet de faire plus d'incrémentation par jour parce qu'il y a augmentation de la publication de la zone à 5 minutes. Alors, pour terminer, dernière diapositive, donc les changements visibles qui pourront être observés au cours des mois à venir sont les suivants. Donc, les roulements tests commenceront à se faire le 19 juin, ils se termineront le 22 juin. Le roulement d'algorithmes, si tout va bien, devrait avoir lieu le 20 août. Et si tout va comme nous le prévoyons, nous devrions le terminer le 27 août. Pour la première fenêtre de clé signée, parce qu'il y a aussi la communication avec Yana. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Do you have some time?
Hi, this is Victor Duchovny.
Victor Duchovny, félicitations d'avoir adopté DNSSEC de manière si importante. Il y a des petits problèmes que l'on retrouve dans certaines délégations. Si vous pouvez m'aider à me mettre en contact avec eux. Excusez-moi, dit Frédérico. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Victor, il y a certains petits nombres de domaines que vous avez délégués dont la gestion d'NSSEC n'est pas tout à fait parfaite. Si vous pouvez m'aider à entrer en contact avec eux, ce serait génial. Merci. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question. CZ, essayer de migrer vers le ECDS. Est-ce que vous essayez de faire la même chose ou est-ce que vous êtes compatible, Frédérico? Oui, maintenant on est compatible. Oui, oui, tout à fait. Très bien. 3, 2, 1. Pas de questions?
Hello, can I speak in French?
Tu peux faire. Oui. C'était par rapport à l'application Open Source que vous avez utilisée. Est-ce que vous avez une documentation sur les tests que vous avez effectués? Et puis voilà, j'aimerais savoir comment en fait on peut transmettre les tests que vous avez effectués à une plus large communauté et notamment ceux issus de la Caraïbe francophone comme la Guadeloupe d'où je viens.
Jacques, if you can translate, please.
So the documentation.
La documentation de ce test, est-ce que vous allez la publier? Est-ce que vous pourriez la partager avec la communauté des Caraïbes? Oui, dit Frédérico Das Neves. Nous prévoyons de publier ce rapport début du mois de juillet et nous allons publier également un blog par rapport à cela. Très bien, merci beaucoup de cette traduction. D'autres questions? S'il n'y en a pas, on passe à la pause. Très bien, nous avons encore 5 minutes pour la pause et nous nous retrouvons ici à 10h30 pour la deuxième partie de cet atelier. Merci beaucoup.